Le journal de Jérémy Pignard.
Bonsoir. Plafonner les primes maladie à 10% du revenu, c'est non, mais le Parlement jurassien a accepté de lancer une réflexion pour fixer un plafond et éviter que ça ne coûte trop cher à l'État. Période difficile pour l'horlogerie, le Swatch Group a vu ses chiffres dégringoler. L'an dernier s'ajoutent les nouveaux droits de douane américains, mais ce n'est pas une inquiétude pour Nick Hayek, vous l'entendrez. Le point le plus dur à mettre, selon les spécialistes, le HCA Joie est à Lugano ce soir pour l'acte 3 des play-outs de National League. Les Jurassiens mènent 2-0 et ont l'occasion de mettre leurs adversaires dans les cordes. Le soleil sera bien là demain pour accueillir le printemps jusqu'à 18 degrés annoncés en pleine. Encore frais le matin, 0 à 3 degrés, mais les prévisions se sont assombries pour le week-end. Les primes d'assurance maladie ne seront pas plafonnées à 10% du revenu dans le Jura, mais il y aura une réflexion pour définir un pourcentage maximal dans le cadre du contre-projet indirect à l'initiative fédérale refusé en juin dernier. Le Parlement jurassien a donc accepté ce mercredi une motion transformée en postulat de la socialiste Jelica Obri-Yanketic. Sa demande de plafonner les primes à 10% du revenu déterminant aurait coûté 69 millions de francs à l'État. Elle explique pourquoi elle a accepté la transformation de sa motion en postulat.
En premier lieu, je crois que je me suis bien rendu compte que la motion en tant que telle n'avait pas beaucoup de chances de passer. Et puis je pense finalement que c'est un bon compromis d'accepter le postulat. Lors de la votation fédérale le 9 juin 2024, c'est le contre-projet qui est passé qui invite justement le gouvernement à fixer un taux maximal. Et puis voilà, je pense que le fait d'accepter sous forme de postulat et le Parlement l'a justement plébiscité, je pense que donnera aussi un signal clair au gouvernement pour essayer quand même de se rapprocher de cet objectif des 10%.
La motion aurait engendré un coût de 69 millions pour les finances cantonales. Clairement, est-ce que ce n'est pas trop pour le canton du Jura ?
Alors effectivement, c'est un coût très très important, mais je crois que c'est aussi une question de priorité.
Un des propos recueillis par François Comte. Souvent victime d'inondations, Basse-Vendeline aura une subvention cantonale pour faire face aux crues. Le Parlement a accepté de débloquer une enveloppe de 584 000 francs pour financer des travaux de protection. Un projet de revitalisation de la Vendeline sur un tronçon d'environ 1,5 km est aussi prévu. La nouvelle loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les construction a été acceptée par le Parlement jurassien. Les députés ont adopté aujourd'hui le texte en deuxième lecture par 52 voix contre 7. Comme attendu, les débats se sont cristallisés sur l'article 4 et l'établissement des permis de construire. Il faudra dorénavant recourir à des personnes qualifiées pour des travaux de plus de 150 000 francs. Les 100 000 francs retenus en première lecture avaient suscité beaucoup de réactions. Un compromis a pu être trouvé en commission de l'environnement et de l'équipement. Son président Claude Schluchter se réjouit du texte final adopté.
On partait avec deux propositions, une proposition qui était très stricte et puis une autre qui était déjà amendée. En commission, évidemment, dans le but de protéger la population, et c'était bien le but final de cette loi, c'est de protéger la population et de ne pas limiter la population. C'était vraiment le but de la protéger. Et concernant bien la profession d'architecte, je crois que tout a été dit. Encore une fois, il n'est pas question de brimer les bureaux déjà en place, qui fonctionnent, etc. Oui, c'est important de bien comprendre qu'ici, entre les deux lectures, vraiment tous les partis ont amené leur pierre à l'édifice, en parlant de loi sur les constructions, amené leur pierre à l'édifice pour ne pas aller au clash, en fait. Et puis, cette loi, moi, je la trouve vraiment, vraiment bien et adaptée à l'évolution, adaptée à la période que nous vivons au niveau de la construction dans le canton du Jura et en Romandie d'une manière générale.
Du changement dans la gestion des départements de l'État, les chefs de service auront des enveloppes budgétaires dorénavant pour gérer les affaires courantes. Modification approuvée aujourd'hui par les députés, cela permettra notamment d'augmenter l'autonomie des cadres de l'administration et d'éviter au gouvernement de prendre nombre de décisions opérationnelles mineures. Le racisme peut naître aussi dans les livres pour enfants. À l'occasion de la semaine d'action contre le racisme, l'association Bain de Livres questionne la place des personnages de couleur dans les ouvrages destinés aux plus petits et son évolution dans le temps. Elle a organisé un atelier cet après-midi au lieu d'accueil et de rencontre de Caritas Jura à Delémont. L'activité était ouverte aux enfants dès 5 ans et à leurs parents. Le reportage de Nicolas Meusy.
Alors, c'est l'histoire d'Akissi. Tu connais Akissi ? C'est cette petite fille avec plein de potes partout.
À qui ?
Ouais, t'arrives à lire ça, toi ?
À qui ?
À qui ?
Atelier lecture pour une quinzaine d'enfants et une petite dizaine de parents, quasiment tous d'origine étrangère. L'objectif de l'événement est de mettre le doigt sur quelque chose de contre-intuitif. Les livres pour enfants qui représentent des personnages noirs peuvent être un terreau pour le racisme. Selon la chef de projet à l'association Bain de Livres, certains ouvrages véhiculent toutes sortes de stéréotypes Aude Monnat.
Ce qui pose problème, c'est que la place des personnages racisés dans les livres pour enfants, elle est souvent on représente souvent des victimes de guerre, des victimes d'inégalité, des personnes qui vivent dans la savane. Et puis, petit à petit, ça construit dans la tête des enfants, des familles, une image des personnes de couleur qui est un peu inférieure ou rétrograde par rapport à la société ici.
Sa papa, il dit, c'est qui il a cette bavard de chaussettes?
L'association veut donc rendre les parents attentifs aux pièges qui peuvent se cacher dans certains livres pour enfants. Soulta accompagne son fils Shafak et la vigilance face au racisme dans la littérature jeunesse ne va pas de soi pour cette maman.
On ne pense pas comme ça. Je pense que pour les enfants, il n'y a pas de sur le livre de racisme. Je ne pense pas comme ça. Je pense que c'est tout le monde pense comme moi. Je ne peux pas faire attention vraiment.
Il y en a qui ont lu le livre où on n'a pas rangé les chaussettes.
Moi.
Toi, tu l'as lu?
Oui.
Ouais. Ils étaient quelle couleur, les personnages?
Une rouge, une bleue, une blanche.
La représentation des personnages de couleur dans les livres pour enfants a toutefois évolué ces dernières années et la littérature offre des représentations bien plus proches de la réalité, d'après Aude Monnat.
Des ouvrages où simplement ce sont des personnes de couleur qui vivent au quotidien, des petites histoires de famille, des chaussettes mal rangées, enfin, des brocolis qu'on n'a pas envie d'avaler, des trucs classiques, j'ai envie de dire. Et puis aussi des ouvrages dans lesquels on parle de l'Afrique actuelle, une Afrique urbaine, une Afrique jeune, et avec des personnes qui sont très bien formées et qui nous font sortir des stéréotypes.
Une littérature moderne qui permettra aux enfants de lire en toute insouciance.
Hélas, quelques jours plus tard, les armes se font encore plus lourdes.
Une année difficile avec une situation curieuse. Les mots du patron du Swatch Group, Nick Hayek, pour commenter les chiffres de l'année 2024. Les recettes du groupe horloger biennois ont reculé de plus de 14%. Le bénéfice net a lui dégringolé de 671 millions, moins 75%. Chiffre expliqué par la baisse de la demande sur le marché chinois. En revanche, le Swatch Group peut compter sur quelques pays importateurs en pleine croissance, selon Nick Hayek.
Vous avez le marché numéro 1 dans le monde, les États-Unis, où on fait des chiffres records qu'on n'a jamais fait dans tous les segments. Vous avez le marché numéro 3 dans le monde, le Japon, qui fait des chiffres records pour toutes nos marques. Et ça continue à croître. Tout reste sur la Chine, qui a l'air de ne pas vraiment se réveiller ces prochains mois. Et ça veut dire que nous avons de toute manière quand même une croissance, mais quand est-ce qu'on va pouvoir compenser la Chine? Je ne sais pas. Le marché chinois est faible pour tout le monde. C'est pour tout le monde la même chose. Le consommateur est insécurisé, il ne veut pas investir de l'argent, il a peur. Et c'est pour les voitures, c'est pour l'électronique, c'est pour toutes les montres, c'est pour toutes les modes. C'est la même chose pour tout le monde. Il faut continuer sur sa stratégie habituelle, ne pas cesser de faire du marketing, parce que du moment où le consommateur a de nouveau de l'argent pour dépenser, il va dépenser.
Et le marché des États-Unis porte donc ce bilan avec des chiffres records pour les marques Omega, Longines, Tissot ou encore Swatch. Et la menace d'augmentation des droits de douane brandie par le président américain Donald Trump n'effraie pas Nick Hayek.
Non, écoutez, c'est peut-être même le contraire. Parce que les produits deviennent encore plus désirables. Parce que les montres, c'est quelque chose que les gens veulent. Ce n'est pas une commodité, ce n'est pas la bouffe, ce n'est pas des œufs que vous devez acheter. C'est quelque chose que vous désirez, que vous voulez. Et si vous pouvez pas l'acheter parce qu'il est trop cher, si c'est à cause des taxes que c'est trop cher, vous allez l'acheter ailleurs où ça coûte moins. Et c'est pour ça que nous sommes partout dans le monde. Les gens voyagent aujourd'hui et les produits comme les montres sont parfaits pour ça. Si je vois à l'aéroport de Zurich combien de Swatch Watches sont achetés par des touristes américaines qui vont aux États-Unis, c'est formidable. Pour les autres produits, c'est difficile. Si vous avez des voitures, Si vous avez des machines et vous avez des taxes dessus, ça c'est un problème. Parce qu'un consommateur américain ne va pas aller acheter sa voiture en Suisse. Mais dans les mondes, c'est pas un problème pour nous.
Un dossier signé Violette Ferreira. Le Conseil national a refusé aujourd'hui de durcir le code pénal sur les violences faites aux femmes. L'initiative parlementaire de l'élu UDC Céline Amaudru a été rejetée. Face à la hausse des cas de viol, elle demandait une peine de prison de 6 mois minimum, 10 ans maximum. Actuellement, un auteur reconnu coupable de viol en Suisse peut encore échapper à toute peine de prison. La Suisse ne donnera pas plus à l'Ukraine. Elle en fait assez, a estimé aujourd'hui la majorité bourgeoise du Conseil national qui a rejeté une motion des socialistes et verts libéraux pour augmenter son soutien humanitaire à l'Ukraine. La Suisse a déjà dépensé plus de 4 milliards ces trois dernières années, selon le ministre Ignacio Cassis, notamment pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et le Conseil fédéral prévoit 5 autres milliards pour reconstruire le pays ces 12 prochaines années. Mais en comparaison internationale, ce n'est pas assez, selon le socialiste zurichois et auteur de la motion, Fabian Molina.
L'Ukraine se défend depuis plus que 3 ans contre une invasion impérialiste. Avec la trahison des États-Unis, elle est beaucoup plus dépendante du soutien européen. La Suisse est sur le rang 28 de tous les pays qui soutiennent l'Ukraine. Donc on a beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer cette position et pour soutenir l'Ukraine.
5 milliards pour les 12 prochaines années, c'est pas suffisant?
Le Conseil fédéral a proposé 1,5 milliard au Parlement. Ça, c'est déjà passé. Le reste, c'est que une promesse que le Conseil fédéral ne sait lui-même pas comment financer. À la fin, c'est aussi dans l'intérêt de la Suisse de soutenir l'Ukraine parce que l'Ukraine défend aussi la liberté européenne. Et pour ça, je crois qu'il faut trouver des autres moyens pour maintenant appuyer l'Ukraine encore plus.
Et la Russie qui annonce avoir échangé 372 prisonniers de guerre avec Kiev aujourd'hui, échange qui intervient après l'entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le ministère russe de la Défense a indiqué dans un communiqué que 175 prisonniers de guerre russes lui avaient été remis contre 175 Ukrainiens, ainsi que 22 autres qui étaient gravement blessés.
RFJ, il est 18h12.
RFJ, sport.
Le HC Ajoie a l'occasion de mettre son adversaire dans les cordes. Il mène 2-0 face à Lugano avant le troisième match des play-outs de National League ce soir à 20h au Tessin. Un succès offrirait au HCA 3 pucks de maintien dans l'élite. Les Jurassiens doivent notamment leur dynamique actuelle à une bonne cohésion avec des joueurs qui ont accepté leur mission. Exemple avec l'attaquant Matteo Romanenghi, promu en première ligne en l'absence de Julius Nettinen. L'ancien Luganais vient d'inscrire 3 points en 2 matchs, de quoi lui donner de la confiance, même si Matteo Romanenghi n'oublie pas l'œuvre collective du HCA.
J'ai pas marqué beaucoup cette saison, donc ça aide, c'est sûr, mais c'est toute l'équipe qui doit faire tout ce que c'est possible pour gagner. Les deux premiers matchs, c'est bien allé, mais il faut continuer, c'est sûr.
On parle un petit peu de votre rôle en première ligne maintenant. Vous avez joué au centre, joué à l'aile maintenant. Vous savez vous adapter aussi pour l'équipe?
Non, c'est clair, oui. Dans toute ma carrière, j'ai toujours fait centre et allié, donc les deux, c'est bon pour moi, c'est pas un problème. Et il faut que tous les joueurs sont prêts pour chaque responsabilité, donc on doit continuer comme ça.
Vous parlez de responsabilité, jouer en première ligne, ça vous en donne peut-être davantage que jouer en troisième par exemple?
C'est deux choses différentes, donc plus de choses offensives en premier qu'en troisième, c'est sûr, mais comme j'ai dit, tous les quatre lignes, ils ont un rôle, il faut continuer à faire.
Et Matteo Romanenghi qui répondait à Michel Léoni qui sera en direct de Lugano dès 19h45 sur RFJ pour vous faire vivre l'acte 3 de cette série. Le volleyball Franche-Montagne aura une équipe de moins dans son groupe l'an prochain. La commission des licences a annoncé ce mercredi que Volley Glaronia se retirait de la Ligue Nationale A. Le club avance des raisons financières. Il était déjà acté avant ce retrait qu'aucune équipe de Liga ne serait reléguée. Swiss Volley devra donc élaborer un nouveau mode de fonctionnement pour faire face à cette défection.
RFJ Sport.